Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
C'était il y a 80 ans en France, le droit de vote des femmes. On en parle avec vous, Anya Durovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en sciences sociales, vous avez co-dirigé notamment un ouvrage qui va paraître en mai prochain aux presses universitaires de France, Citoyens et partis après 2022, éloignement et fragmentation. C'est tout de même assez étonnant parce que ce droit de vote des femmes est un événement central, décisif dans l'histoire des démocraties, et alors qu'on a l'habitude de célébrer beaucoup de choses, de commémorer énormément de choses, ces 80 ans ont finalement fait peu parler. Pourquoi, selon vous ?
C'est effectivement une question que je me pose aussi. Surtout, c'est un événement qui nous dit beaucoup de choses sur l'évolution de la définition de la démocratie. C'est-à-dire que, selon le standard de définir les démocraties libérales aujourd'hui, la France, avant 1944, était une démocratie défectueuse, démocratie limitée, comme c'est le cas de beaucoup d'autres pays. Et effectivement, aujourd'hui, on considère le pays où les femmes n'ont pas le droit de vote non pas comme des vraies démocraties. Et effectivement, cet anniversaire-là nous dit beaucoup de choses sur comment nous, aujourd'hui, définissons différemment la démocratie, et aussi que finalement, les vraies démocraties libérales, ont commencé beaucoup plus tardivement ce qu'on a habitude à lire dans beaucoup de manuels.
Mais d'ailleurs, est-ce que ça existe encore des pays qui se prétendraient des vraies démocraties et qui ne donneraient pas le droit de vote aux femmes ?
Si, finalement, étant donné qu'aujourd'hui c'est une partie essentielle de la définition de la démocratie, on voit que notamment des pays qui peuvent être qualifiés comme des régimes autoritaires, ont compris que l'égalité femmes-hommes fait partie intégrante de cette définition-là. Et donc, donne le droit de vote aux femmes, on l'a vu avec l'Arabie Saoudite, on l'a vu avec l'Afghanistan, mais aussi implémente des lois comme les lois de quotas parlementaires. Les deux tiers des pays qui ont adopté de telles lois de parité parlementaire, sont en fait des régimes autoritaires. Et c'est là qu'on voit bien que aujourd'hui, l'égalité femmes-hommes est utilisée parfois, est instrumentalisée et fait partie de ce qu'on peut voir comme des éléments de base d'une démocratie.
C'était donc il y a 80 ans en France. Pouvez-vous nous rappeler, Anya Durovitch, dans quel contexte le droit de vote a été accordé aux femmes ?
Oui. Alors, il y a un travail d'une politiste qui s'appelle Dan Tillet, qui est assez intéressant. Et elle fait un peu le bilan de comment ce droit de vote a été implémenté dans différents pays. Parfois, ça a été octroyé dans le cas des pays colonisés. Parfois, ça a été fait de manière graduelle, et donc la France appartient à ces pays où ça a été fait de manière graduelle. Et ce qu'elle montre aussi dans son travail, c'est que finalement, on pourrait penser que c'est surtout les partis progressistes qui auraient promu l'implémentation du droit de vote pour les femmes, et au final, non, on voit qu'il y a une répartition presque égale. Donc la France, de ce point de vue, n'est pas un cas spécifique, puisque en France aussi, ce n'était pas les progressistes, les républicains à l'époque qui ont promu ce droit-là, mais plutôt les conservateurs, les partis conservateurs, qui voyaient un nouveau électorat qui pourrait être électoralement un bénéfice pour eux. Et inversement, les républicains, notamment les plus radicaux, ont craigné que les femmes votent plus en fonction de leur religiosité, en fonction de ce que leur dit le prêtre, etc. Alors qu'on sait très bien, à l'époque, il n'y avait pas de sondage, donc c'était une pure hypothèse.
Mais cette hypothèse, justement, est-ce qu'elle s'est révélée exacte, si on a pu la mesurer, Ania Durovitch, est-ce qu'à l'époque, les femmes étaient plus conservatrices? Parce qu'on va en parler longuement avec vous, c'est un sujet extrêmement important. Aux États-Unis, on parle de gender gap, la différence entre le vote des femmes et le vote des hommes. Alors à l'époque, que sait-on sur ce que l'on pouvait mesurer en différence de vote entre les femmes et les hommes?
Oui. Alors dans un premier temps, déjà, faut dire qu'ils votaient peu, hein. Ça a pris du temps que commençaient à voter, notamment à la même hauteur que les hommes. Mais ce qu'on sait, grâce aux travaux de la sociologue Janine Mossus-Lavo, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, dans les années 40-50, les femmes votaient de façon plus conservatrice que les hommes, ce qu'on appelle donc ce fossé genré traditionnel. Et puis ensuite, dans les années 60, surtout 70, ces différences se sont gommées, ont disparu petit à petit. Les femmes ont finalement participé à la même hauteur que les hommes lors des élections, en tout cas, qu'on appelle souvent de premier ordre, présidentielle, législative. Et puis arrive cette phase, dans les années 80, où, effectivement, donc première élection aux États-Unis, Jimmy Carter et Ronald Reagan, où on voit apparaître ce fossé genré qu'on appelle le fossé genré moderne, puisque c'est vraiment en contraste avec le fossé genré traditionnel, où les femmes votent plus à gauche. Et ça, c'est arrivé dans beaucoup de démocraties européennes, et en France, j'ai envie de dire, c'était plus timide. C'était entre les deux mandats de François Mitterrand, au début des années 90, où on voyait aussi cette tendance des femmes françaises voter un peu plus à gauche que les hommes. Et puis il y a une quatrième évolution, c'est notamment les travaux de Nona Maier qui montrent ça, c'est aussi dans les années 80, en fait elles sont beaucoup plus réticentes à voter pour l'extrême droite.
Alors on va revenir bien entendu sur tous ces points, mais tout d'abord la question donc du droit de vote accordé aux femmes en avril 1944 en France. Est-ce que celle-ci correspond à un mouvement global? Puisque vous l'avez dit en introduction, une démocratie qui ne donnerait pas le droit de vote aux femmes ne serait pas une démocratie. Comment cela a-t-il débuté dans les autres pays? Quelle est l'histoire finalement internationale de ce droit de vote des femmes?
Oui, alors donc je rappelle un peu ce travail remarquable de la politiste d'Antillet qui a regardé plus de 30 pays et qui dit qu'il y a deux facteurs qui étaient décisifs. C'est à la fois la force des mouvements féministes, hein, le mouvement suffragette, mais aussi le fait qu'il y a un parti dans les assemblées qui pense pouvoir bénéficier électoralement de la création d'un nouveau électorat. Donc c'est la conjoncture de ces deux éléments qui a fait dans la majorité des pays en Amérique latine, Asie centrale, en Europe, que finalement on a octroyé le droit de vote aux femmes. Et donc justement, c'est pas forcément le facteur, ce qu'il y avait plus de partis progressistes ou plus de partis conservateurs, c'est vraiment le fait que le parti en question, qui était puissant à l'époque dans une assemblée nationale donnée, pensait de pouvoir bénéficier électoralement de la création d'un nouveau électorat.
Quels sont les pays qui ont montré la voie?
Bah, c'est la Nouvelle-Zélande. Premier pays, c'est la Nouvelle-Zélande. Ensuite, il y a eu évidemment les pays scandinaves, la Finlande, la Norvège, la Suède. Et puis aussi, ça, je pense qu'on n'en parle pas souvent, c'est la Russie.
Ça veut dire que ça débute finalement tout au début du XXe siècle avec l'Australie, la Norvège. La Russie, c'était l'une des marques de fabrique, donc là aussi de l'Union soviétique, de proposer une égalité véritable entre les hommes et les femmes, en tout cas sur le plan des discours.
Tout à fait.
Mais justement, dans ce mouvement général, ça signifie que la France était particulièrement à la traîne. Pourquoi, finalement, a-t-on eu une vingtaine d'années de retard? Parce que la plupart des pays européens avaient déjà fait cette mesure-là dans les années 20, alors que la France ne l'a fait qu'après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, alors il y a plusieurs explications de la part des historiens, des philosophes et des politistes. Je signalerai trois. Bah, d'un côté, évidemment, le poids culturel du code Napoléon, Donc, c'est-à-dire la poids du patriarcat, de cette infériorité des femmes qui étaient légalement inscrites, donc justement le fait que les républicains ne pensaient pas de bénéficier électoralement de la création de ce nouveau électorat féminin, et puis aussi le mouvement féministe ou le mouvement des suffragettes en France qui était, j'ai envie de dire, plus bourgeois que dans d'autres pays et qui ont fait des actions un peu moins spectaculaires qu'on a pu le voir en Angleterre ou aux États-Unis.
Ça veut dire que paradoxalement, c'était les républicains, vous l'avez dit tout à l'heure, qui n'y étaient pas favorables. Est-ce qu'ils y étaient très hostiles ? Est-ce qu'il y a eu des débats dans les années 20 en France ou à l'époque où d'autres pays, puisque par exemple l'Allemagne, c'était en 1918 que les femmes ont eu le droit de vote, le Danemark, c'était en 1915. Est-ce qu'à cette époque, les républicains étaient vraiment mobilisés contre ce droit de vote accordé aux femmes en France ?
Oui, après, ils n'étaient certainement pas les seuls. On a pu entendre beaucoup de choses de la part de différents hommes élus, c'est-à-dire que les femmes n'étaient pas aptes, qu'elles étaient trop émotives, qu'elles ne pouvaient pas distinguer l'émotion et la rationalité, que finalement leur place était à la maison. Donc oui, on a pu entendre beaucoup de choses hostiles. Et comme je disais au début, il y avait surtout cette hypothèse qu'elles allaient voter en fonction de leurs croyances religieuses et en fonction ce qu'on leur dit, ce qui est intéressant puisque finalement on a surtout pensé que les femmes ne pouvaient pas penser elles-mêmes, mais qu'elles allaient faire ce qu'on leur dit de faire.
Ce qui veut dire aussi qu'il y avait un retard sociologique, puisque généralement la Première Guerre mondiale est présentée comme étant le moment où les femmes ont conquis en grande partie leur égalité sur les hommes.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le cas de l'Allemagne est intéressant de ce point de vue-là, puisque l'Allemagne, en 1919, donc, a octroyé le droit de vote aux femmes, et donc fait partie de ces pays, après la Première Guerre mondiale, qui donnent le droit de vote aux femmes, et assez progressiste à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a plus de autour de, je crois, 13% des femmes dans l'Assemblée, on les voit aussi se mobiliser dans les urnes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il y a eu un retour de bâton, et il a fallu attendre les années 90, voire 80, avec l'arrivée des Verts dans l'Assemblée, pour avoir de nouveau un nombre aussi important de femmes dans l'Assemblée allemande.
Anya Durovitch, chercheuse en sciences politiques au laboratoire Printemps de l'Université Paris-Saclay. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Et alors, cette fois-ci, on va évoquer les conséquences concrètes et puis les évolutions politiques de ce droit de vote des femmes et de ses conséquences. Donc, 7h56 sur France Culture.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et nous avons décidé d'évoquer cet événement essentiel pour que la démocratie française soit une démocratie. C'était il y a 80 ans, le droit de vote des femmes. Vous nous avez expliqué, Anya Durovitch, vous qui êtes chercheuse en sciences politiques, à quel point les partis républicains étaient plutôt réticents en 1944, tandis que les partis conservateurs, eux, considéraient qu'ils auraient un avantage. Et dans le mouvement qui, entre 1901 et, mettons, 1918, a donné le droit de vote aux femmes dans beaucoup de pays européens, eh bien, c'était une idée qui prévalait. La France a été en retard. Aujourd'hui, cette question donc du gender gap, la différence du vote des femmes et des hommes, est centrale dans les campagnes électorales. Mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer le Rassemblement national. Alors justement, sur le Rassemblement national, que sait-on dans la manière dont celui-ci attire ou n'attire pas les femmes sur ses candidats ?
Oui, alors au début, à la création du parti, il a surtout pas attiré les femmes du tout. Donc, du temps de Jean-Marie Le Pen, on a pu voir ce que la politiste Terry Givens appelle l'écart genré dans le vote pour l'extrême droite. C'est-à-dire que ce type de parti, comme le RN, comme d'autres partis d'extrême droite, repousse plutôt les femmes. Et du temps de Jean-Marie Le Pen, cet écart était considérable, autour de 8 points de pourcentage, et a duré tout au long de son temps en tant que président du parti. Il fallait attendre que Marine Le Pen, donc sa fille, prend les rênes du parti, et elle, contrairement à son père, elle a tout de suite ciblé l'électorat féminin. C'est-à-dire qu'elle a compris que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, puisqu'au final, l'histoire des gender gaps, c'est aussi la montée en puissance des femmes qui votent aujourd'hui autant que les hommes, et qu'il est important de prendre en compte ce que pense la moitié de l'électorat. On peut pas se permettre, notamment dans un système qui n'est pas proportionnel, de se fâcher avec plus la moitié, voire la moitié de l'électorat.
Jean-Lémarie,
comment prend-elle en compte Marine Le Pen, cette partie de l'électorat, justement ?
Bah alors, par exemple, en 2022, pour la journée des femmes, le 8 mars, elle a écrit une lettre aux Françaises. Dans sa bibliographie, elle s'est décrite comme quasi-féministe. Elle dit souvent qu'elle comprend la galère des femmes, puisqu'elle-même, elle est divorcée, elle a dû élever ses enfants. À Perpignan, en 2022, elle a dit aussi qu'elle s'adresse aux ouvrières humiliées, aux gilets jaunes et évoque les problèmes de l'égalité salariale. Donc elle prend en compte tous les problèmes qui concernent beaucoup de femmes aujourd'hui.
Bon, en tout cas, il y a une différence entre elle et Éric Zemmour, puisque Éric Zemmour, le gender gap, donc la différence entre le vote des hommes et des femmes, était significatif. 9% des électeurs parmi les hommes, 5% parmi les femmes. Il faut dire aussi qu'Éric Zemmour à un certain nombre de positions masculinistes qui n'étaient pas le cas. Alors, j'allais dire que c'était pas le cas au Rassemblement National avant que mon camarade Jean-Lémarie n'évoque les propos donc du candidat mahorais Saïd Ali Bouana Missi, qui lui fait preuve effectivement de masculinisme sur sa page Facebook. Est-ce que ça explique pourquoi le vote Zemmour n'a pas réussi à attirer autant de femmes que d'hommes?
Oui, clairement, avec Nona Maier, nous l'avons testé quantitativement. Et par exemple, ce type d'attitude sexiste, la phrase, par exemple, le féminisme est allé trop loin, la place de la femme est finalement plutôt à la maison, ça a un effet uniquement sur le vote pour Éric Zemmour en 2022. On a trouvé aucun effet des attitudes sexistes sur aucun autre des principaux candidats à l'élection présidentielle en 2022. Et ce que moi j'aimerais souligner, c'est que il faut arrêter de penser que les femmes votent comme un bloc homogène. Hein, les femmes qui vont voter pour Éric Zemmour, pour Marine Le Pen, ce sont avant tout des femmes de droite. Donc c'est-à-dire que des femmes qui sont opposées à l'immigration, tout comme des hommes peuvent être opposés à l'immigration, c'est ça qui les unit, c'est un des facteurs le plus important. C'est pas les femmes qui sont pour l'immigration qui vont voter pour Marine Le Pen parce qu'elle fait une lettre, elle écrit une lettre aux femmes, ou parce qu'elle dit, elle pense aux ouvrières humiliées. Donc ce qui est important de comprendre là, c'est que parmi ce vivier de l'électorat des femmes de droite, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un candidat de droite, d'extrême droite, le repousse. Et donc là, la question du sexisme et la question de comment il se positionne vis-à-vis des femmes est effectivement essentielle, puisque, on va dire, sur le plan politique, en ce qui concerne les politiques, le positionnement vis-à-vis de l'immigration, la sécurité, etc., entre les deux candidats sont assez similaires. Donc ce qui fait la différence que un repousse les femmes et l'autre repousse pas les femmes, c'est quand même leur positionnement, les discours que peut être misogyne ou tout simplement sexiste.
Jean-Lémarie.
Le sexisme, c'est aussi celui qui traverse la classe politique, le fait simplement qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Marine Le Pen pourrait être la première femme à accéder à l'Élysée. Est-ce un moteur du vote pour le RN aujourd'hui, cela ?
Le fait qu'elle soit
le
une
fait
femme...
qu'elle soit une femme.
En tout cas, je pense que c'est ce qui joue aussi, c'est le fait que ce parti est normalisé, comme on dit. C'est-à-dire que ce qu'on a trouvé en sciences politiques, une des raisons pour lesquelles les femmes étaient repoussées par ces partis, c'était leur extrémisme. C'était le fait qu'ils étaient stigmatisés. Et comme du fait de leur socialisation genrée, les femmes sont plus sensibles à ce qui est socialement vu comme illégitime, trop extrémiste, elles avaient tendance à justement éviter ces partis vus comme trop extrémistes. Avec une plus grande popularité de ce parti, avec leur plus forte normalisation, pas qu'en France, hein, dans d'autres pays aussi d'Europe, on peut observer cela. En fait, cette barrière-là, supplémentaire, elle est tombée et fait en sorte que les femmes, aujourd'hui, dès lors qu'elles partagent un certain nombre d'idées politiques, comme l'opposition à la migration, sont autant attirées par ces partis que les hommes.
Mais alors, justement, est-ce que vous diriez cela aussi de l'extrême gauche ? Est-ce que les idées qui peuvent être considérées par certains comme extrémistes des partis d'extrême gauche, quels qu'ils soient, sont des partis qui repoussent les femmes également ?
Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recherches sur cette question. C'est effectivement, et en même temps, j'ai envie de dire, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on a observé dans les données. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de fossé genré en ce qui concerne le vote pour la LFI, au contraire, ou pour des partis encore plus de gauche. Donc, non, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a observé. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas uniquement l'extrémisme, mais c'est aussi la violence politique que souvent a été plus forte du côté dans les discours et dans les du côté des militants de l'extrême droite.
Mais là, par exemple, si j'en juge par un certain nombre de commentaires politiques au sujet de la France insoumise, est-ce que vous pensez que cette stratégie qui est jugée comme violente par certains peut être rédhibitoire pour le vote des femmes ?
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on observe. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra suivre et observer durant les prochaines élections.
Et toujours dans le même ordre d'idées, vous nous avez dit donc qu'une politique hostile aux femmes, comme celle qu'Éric Zemmour pouvait défendre pendant la présidentielle, avait entraîné un certain nombre de femmes à ne pas voter pour lui. Est-ce qu'une politique qui serait particulièrement attentive aux femmes, aux violences sexuelles qu'elles subissent, à un certain nombre de mesures dans ce domaine-là, est-ce que ce sont des politiques qui peuvent attirer le vote des femmes ?
Oui, certainement, mais ça dépend lesquelles, puisque toutes les femmes ne sont pas féministes. Hein. Les travaux de Magali de la Souda le montrent très bien. Il y a des femmes de droite qui sont anti-féministes, qui partagent pas les idées du féminisme. Et il y a surtout aussi des femmes qui se disent féministes, mais voient le danger surtout du côté des migrants. C'est-à-dire que le harcèlement de rue, les violences sexistes et sexuelles seraient surtout arrivés en France à cause de avec l'arrivée des migrants. Donc ils font de cette bataille un marqueur civilisationnel. Ceci dit, alors, est-ce que ça a un impact? Oui, mais ça dépend de l'angle d'attaque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que il y a des sujets qui fédèrent vraiment les femmes, c'est-à-dire la santé des femmes, les questions des déserts gynécologiques, les questions de soutien en ce qui concerne le care, hein, les crèches, les places en crèche, et donc il y a aussi l'égalité salariale. Et donc ça, ce sont des sujets fédérateurs avec les on peut effectivement faire en sorte d'attirer plus de femmes de droite. Mais ce qui est important aussi, c'est surtout de tout simplement ne pas être sexiste. Hein. C'est-à-dire que ces femmes de droite, ils partagent déjà les idées politiques de ces hommes. Alors si ils arrêtent de faire des commentaires sexistes sur les femmes, déjà, on le voit bien dans le cas de, par exemple, l'extrême droite allemande, ça peut déjà aider ou en France, de arrêter de repousser les femmes.
Bon, en tout cas, si on prend les chiffres de la présidentielle de 2022, d'après l'Ipsos, il y a effectivement un gender gap. Autrement dit, les femmes ont plus voté à gauche que les hommes. 34% des femmes avaient voté pour les candidates et les candidats de gauche, quand les hommes les ont soutenus à 30%.
Alors oui, ce qui est important, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est moi je trouve qu'il est important de pas voir les femmes comme un bloc homogène, c'est-à-dire qu'il y a différents électorats féminins, tout comme il y a différents électorats d'hommes, et dès lors qu'on commence à désagréger ces moyennes entre hommes et femmes et qu'on regarde en fonction comment les femmes votent en fonction de l'âge, en fonction de la classe sociale, en fonction de leur emploi, eh ben c'est là qu'on va vraiment apparaître des tendances intéressantes. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui en France comme dans d'autres pays européens, c'est que cette tendance de voter plus à gauche, en fait, elle vient plutôt des jeunes générations de femmes.
Voilà, alors c'est ça, on va les désagréger, c'est-à-dire qu'en fait on trouve effectivement une vraie différence chez les 25-34 ans et pas chez les 18-24 ans.
Oui, tout à fait. On l'a trouvé aussi chez les plus jeunes avec Nana Maier dans nos recherches. Par contre, dès lors qu'on contrôle pour le niveau de diplôme, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les jeunes femmes sont plus diplômées que les hommes, et qu'on contrôle pour le placement idéologique et le revenu, cette différence disparaît. Donc pour dire qu'en France, pour l'instant, cette tendance n'est pas stabilisée dans ce groupe âge-là, mais par contre elle est plus stabilisée chez les 25 à 34 ans.
Ça veut dire que pour que l'on comprenne bien, à niveau de diplôme équivalent, à niveau de salaire équivalent, les femmes et les hommes en France votent de la même façon ?
Chez les 18-34 ans, le soutien pour, par exemple, nous on l'a trouvé pour Jean-Luc Mélenchon, n'est pas plus marqué. Par contre, dans la catégorie des 25 à 34 ans, non, justement, c'est à niveau diplôme égal, à revenu égal, à placement idéologique égal, les femmes de cette catégorie d'âge votent ont eu plus tendance à voter pour Jean-Luc Mélenchon lors des élections présidentielles 2022. Que les hommes de leur âge.
Bon, il y a eu une étude particulièrement intéressante qui a été relayée dans le Financial Times il y a quelques semaines sur l'existence d'un nouveau global gender gap, donc une vraie nouvelle différence entre le vote des hommes et des femmes, et ce dans différents pays, puisque je l'ai dit en introduction, aux États-Unis c'est un problème central, notamment pour le parti républicain qui, avec une figure comme Donald Trump, attire moins les femmes que les hommes, mais c'est aussi une question qui se pose en Corée du Sud, en Allemagne, en Angleterre. Qu'est-ce que l'on observe d'après cette étude?
Alors, ce qu'on observe d'après cette étude, c'est que les femmes, les jeunes femmes, des jeunes générations, donc des 18-24 ans, les 25-34 ans, se placent plus à gauche sur un certain nombre de sujets, l'immigration, les questions écologiques, mais aussi les questions égalité femmes-hommes, que les hommes de leur âge, et donc créent un fossé idéologique. C'est vrai que quelque chose qu'on a pu observer en Allemagne, donc mon collègue Ansgar Rudet en Allemagne, il a effectivement montré qu'à travers le temps, on voit cette tendance des jeunes générations de femmes d'avoir un vote qui est plus marqué à gauche par rapport aux leurs homologues masculins. C'est quelque chose qu'on observe en Espagne, effectivement aussi, où le parti Vox crée un écart de 10 points de pourcentage entre les femmes et les hommes des 18 à 24 ans.
Donc le parti d'extrême droite.
Le parti d'extrême droite, pardon. Et on commence aussi, avec l'étude que j'ai mentionnée, que j'ai menée avec Nana Maier, on l'a vu en 2022 en ce qui concerne le vote pour Jean-Luc Mélenchon.
Même dans le cas où les partis d'extrême droite, parce que ça c'est une tendance qui n'existe pas seulement en France, auraient tendance à prendre des femmes comme figure de proue.
Oui.
Et là, est-ce que ça a des incidences ?
Oui, alors c'est effectivement ça a des incidences, mais c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que par exemple en Italie, pour évoquer le cas de Giorgia Meloni, on a pu voir que ce gender gap, il s'est évaporé également. Et il s'est évaporé également parce que Giorgia Meloni, encore une fois, c'est cette stratégie, mettre une femme à la tête d'un parti qui, a priori, est extrémiste, mais l'image de la femme fait en sorte qu'il est plus lisse, qu'il a l'air moins extrémiste. Et surtout, Giorgia Meloni, elle aussi, elle avait un discours j'ai envie de dire, pro-femme, mais on promouvoir une féminité traditionnelle en disant que je suis femme, je suis mère, je soutiens les mères. Et par contre, elle soutient beaucoup moins toute la diversité que peut aujourd'hui justement avoir dans la catégorie de genre. Donc elle est totalement opposée à la communauté LGBT. Et c'est ça qui est la grande différence. Mais par contre, elle a eu un discours qui a pu attirer les femmes de droite. Et c'est ça qui est arrivé en Italie. Et en même temps, en Espagne, le parti Vox, il mise très clairement sur un créneau sexiste. C'est un pays où on a fait beaucoup de politiques publiques en faveur de l'égalité femmes-hommes. C'est un sujet qui est très polarisé, qui est très politisé. Et le parti Vox a fait le pari de justement miser sur un créneau sexiste en mettant en avant des hommes et des femmes qui justement dénoncent le féminisme, qui dénoncent une égalité de genre qui serait allée trop loin.
Alors justement, Anya Durovitch, vous qui êtes chercheuse en sciences politiques, est-ce que, parce que c'est le revers de ce que l'on vient de dire, est-ce qu'un parti masculiniste, alors les partis purement masculinistes à ma connaissance n'existent pas, mais il peut y avoir une dimension masculiniste implicite ou explicite, implicite dans le cas de Donald Trump, explicite dans le cas par exemple de Javier Milei, le président argentin, ou dans le cas de Jair Bolsonaro, jadis au Brésil, est-ce que ça attire les hommes?
Oui, oui. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent très clairement que le discours sexiste de Donald Trump en 2016 a eu un effet positif sur le vote de certains hommes pour lui. Il faut voir aussi qu'après, tout ça était dans une stratégie de politiquement incorrecte, que a plu à un certain électorat, mais c'est aussi justement et avant tout ce discours sexiste qui a pu attirer certains hommes. Cependant, ce qu'il faut dire aujourd'hui, pour dire aussi que les choses ne sont pas fixes et que ça peut changer dans le temps, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump, il refuse de se positionner ou de faire de l'IVG un sujet de sa campagne politique, puisqu'il, son entourage, son équipe a remarqué que c'est un énorme sujet mobilisateur, c'est-à-dire qui mobilise les indécis, qui mobilise un électorat démocrate peut-être dessus, qui voulait plus voter, et donc peut effectivement susciter un gender gap énorme, mais aussi un vote de la part des personnes, aussi des hommes, progressistes, qui sont pour l'IVG et qui voteraient contre Donald Trump, tout simplement parce que ce sujet est devenu, ou pourrait redevenir central. Donc on voit très bien que même un Donald Trump qui a pu avoir autrefois un discours sexiste et misogyne, aujourd'hui, en ce qui concerne certains sujets d'égalité des sexes, il est plus prudent, il est devenu plus prudent puisque cela pourrait justement mettre en péril son succès électoral.
Et est-ce que ça pourrait l'aider, le sauver? Est-ce qu'il pourrait combler le gender gap, donc la différence entre Joe Biden et lui dans l'électorat féminin américain?
Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment important de dire, d'avoir en tête les différents électorats féminins. Aux États-Unis, ce qu'on a pu voir lors des élections présidentielles de 2016, c'est surtout la race aux États-Unis qui a joué un rôle majeur. C'est-à-dire que c'est ça, avant tout les femmes blanches qui ont voté pour Donald Trump, les femmes droites blanches qui ont voté pour Donald Trump. Par contre, la communauté des femmes latino, la communauté des femmes noires aux États-Unis, ont massivement voté pour les démocrates. Donc, on voit bien que, oui, il y a un gender gap aux États-Unis qui est en faveur des démocrates, mais ce gender gap, une fois qu'on creuse, qu'on regarde de plus près, on voit bien qu'il n'y a pas, c'est vraiment, il y a différents types d'électorats parmi les femmes qui font la différence et qui parfois sont mobilisées et qui sont pas mobilisées. Et ça peut être quelque chose, juste pour terminer, est un point important. Les femmes sont touchées par le phénomène du vote intermittent. C'est-à-dire que il y a des élections où elles votent massivement, il y a des élections où justement votent peu, et donc avoir des sujets mobilisateurs comme par exemple l'IVG peut faire toute la différence.
Et alors, pour les Européennes, puisque c'est aujourd'hui cela, est-ce qu'il est possible d'observer une incidence, donc une différence entre le vote des hommes et des femmes, ou leurs intentions simplement d'aller voter aux Européennes, Anya Durovitch?
Oui, bah justement, les Européennes sont justement sujets à ce qu'on peut appeler ce phénomène du vote intermittent, puisqu'on sait que les femmes, bien qu'aujourd'hui elles votent autant, voire plus que les hommes lors des élections présidentielles et législatives, bah elles votent moins lors des les élections qu'on appelle en sciences politiques de second ordre, qu'incluent les élections européennes. Et là, j'ai regardé les dernières enquêtes de notamment de l'Ipsos, qui montrent déjà que il y a que 42% des femmes qui prévoient se déplacer pour ces élections, comparé à 47% des hommes. Si ensuite on a en tête que ces différences sont plus fortes dans les jeunes générations, c'est-à-dire qu'on sait que les jeunes générations participent encore moins à ce type d'élections, et quand on a en tête que les jeunes générations de femmes votent plus à gauche que les hommes, bah oui, ça peut avoir un impact si les femmes se mobilisent moins pour les élections européennes.
Merci Anya Durovitch de nous avoir fait profiter de vos lumières sur cette question, les 80 ans donc du droit de vote des femmes en France. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques et en mai prochain, aux Presses universitaires de France, sortira un livre collectif que vous avez co-dirigé intitulé « Citoyens et partis après 2022, éloignement et fragmentation ».
Se préparer au grand oral du bac. Prendre la parole en public, défendre ses arguments lors d'un débat, déclarer sa flamme. Bien parler et savoir se faire entendre, ça s'apprend.
J'essaye de transmettre, par des livres ou par des enseignements, ce que j'ai appris en matière de prise de parole en public.
Ma parole, entraînez-vous à l'art de bien parler avec Bertrand Perrier, réalisé par François Test sur franceculture.fr et l'application Radio France.